Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise des images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire plus.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder tout naturellement le thème du mariage. Nos deux séries s'appuient sur l'enseignement de Paul, trouvé dans Éphésiens chapitre 5. À présent, Sandra va nous lire les versets 25 à 27.
Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Merci. Étienne, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris que l'apôtre Paul se sert de l'image du mariage pour illustrer le fait que Jésus est le chef ou la tête de l'Église. L'Église doit se soumettre à Christ, qui exerce son autorité sur elle. Or, il le fait non pas de façon tyrannique ou abusive, mais dans l'amour, et pour servir les intérêts de son épouse, l'Église.
Merci pour ce rappel. Qu'allons-nous aborder aujourd'hui?
Nous allons expliquer plus en détail, pendant plusieurs émissions, la façon dont Christ aime l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler de la purification de l'Église.
Qu'est-ce que cela veut dire? Comment Christ a-t-il rendu l'Église pure?
Voilà des questions importantes. En fait, nous pourrions remplacer le mot « purification » par le mot « pardon ». Car dans ce contexte, ces deux mots ont à peu près le même sens. En règle générale, les hommes préfèrent se marier avec une jeune femme pure, c'est-à-dire une jeune femme qui a pu se garder de relations sexuelles avant le mariage. D'ailleurs, dans toutes les cultures, lors des cérémonies de mariage, nous trouvons des rites ou des traditions qui représentent cet idéal de pureté pour la femme. Christ aussi, si on peut s'exprimer ainsi, voudrait épouser une Église pure. Toutefois, nous savons que dans la réalité des choses, les hommes et les femmes sont profondément impurs sur les plans moral et spirituel. Je ne parle pas ici simplement d'impureté sexuelle, qui est malheureusement très répandue, mais de toute expression du mal qui sort de notre cœur de pécheur. C'est ainsi que l'impureté spirituelle peut consister en la crainte ou la manipulation des esprits, l'adoration des idoles, la croyance aux superstitions, entre autres. De même, l'impureté morale consiste en de multiples conduites mauvaises, allant de la malhonnêteté à la pratique de la corruption, en passant par des sentiments de colère, de jalousie, de convoitise, pour inclure, bien sûr, la pratique de la maltraitance, de la violence et de la vengeance. On pourrait, hélas, facilement allonger cette liste, comme vous le comprenez aisément. Il n'y a pas d'exception, dit l'apôtre Paul. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons besoin de purification, nous avons besoin du pardon.
Et si j'ai bien compris l'enseignement de la Bible, nous ne pouvons rien faire pour nous purifier nous-mêmes, par nos propres efforts.
Non, car cela relève de l'impossible. En fait, la Bible enseigne que tous les rites et traditions religieuses censées nous purifier sont en fait inefficaces. Mais il existe un espoir, car la Bible présente Jésus comme celui qui peut nous purifier. Jésus nous aime au point de bien vouloir nous laver de notre péché, de notre pollution morale et spirituelle.
Et comment cela est-il possible? Comment Jésus nous purifie-t-il? Comment obtenir cette purification?
Pour commencer à répondre à vos questions, je voudrais lire dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 1, le verset 9, puis au chapitre 2, le verset 2. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous » en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans ce texte, nous constatons que les mots « purification » et « pardon » signifient la même chose. Jésus a réglé le problème de nos péchés, et si nous voulons en être purifiés et pardonnés, il suffit de mettre notre foi en lui et de lui confesser nos fautes. Mais comment Jésus nous purifie-t-il? Comment peut-il pardonner? Tous les apôtres s'accordent à dire que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il est mort sur la croix à notre place, et là, qu'il y a subi le juste châtiment de Dieu. En effet, pour rendre notre purification et le pardon de Dieu possible, un sacrifice était nécessaire. Par amour pour son épouse, l'Église, Jésus a accepté d'offrir un sacrifice hors de prix, celui de sa propre vie. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, ceux qui mettent leur foi en lui et qui expriment cette foi par une vie de repentance et de confession sont purifiés et pardonnés. Dès lors, puisque nous sommes ainsi purifiés et pardonnés, nous pouvons vivre cette relation privilégiée avec Dieu. Nous pouvons vivre en union et en intimité avec Jésus-Christ. Il n'y a plus d'obstacle au mariage entre Christ et l'Église, pour ainsi dire.
Merci Étienne de nous rappeler cette vérité merveilleuse. Cependant, dans le texte lu, Paul mentionne un pain nuptial. Que veut-il dire? Évoque-t-il le baptême? Et si oui, quel rôle le baptême joue-t-il dans tout cela?
Le bain nuptial dont il est question est probablement une référence aux traditions de l'époque liées au mariage. Il s'agit peut-être d'un rite de purification effectué par l'épouse avant de procéder à la cérémonie du mariage. Et il est vrai que le baptême peut être aussi compris comme un rite de purification. Je voudrais insister sur le fait que ce ne sont pas les eaux du baptême qui nous lavent littéralement de nos fautes. Non, c'est Jésus seul qui nous purifie du péché. Nous devons plutôt concevoir le baptême comme une parabole ou une illustration, très parlante, de ce que Jésus a déjà accompli dans le cœur de celui qui se fait baptiser. Le baptême est un témoignage public du fait que nous avons mis notre foi en Jésus, qu'il nous a purifiés de toute notre pollution morale et spirituelle, et que dorénavant, nous vivons une relation privilégiée avec lui. Oui, Christ nous a aimés en faisant pour nous ce que nous n'aurions jamais pu faire nous-mêmes. Il nous a purifiés du mal au prix de sa propre vie.
Merci Étienne. Nous venons de parler de Christ et de son épouse, l'Église. À présent, et toujours en s'appuyant sur le texte trouvé en Éphésiens 5, Antoine va nous parler du mariage, de cette relation privilégiée qui unit un homme et une femme.
Lors de la première partie de notre émission, nous avons parlé de Jésus et de son pardon. À présent, nous allons discuter, en compagnie d'Antoine, du pardon au sein du mariage. Antoine, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Commençons par citer un verset de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 32. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Paul a écrit ses recommandations aux membres de l'Église, mais elles sont encore plus pertinentes pour les couples mariés. Puisque Jésus nous a pardonnés, nous devons apprendre à pardonner aux autres.
Antoine, pourquoi cette question du pardon est-il si importante dans le contexte du mariage?
Le mariage, par sa nature, est une relation où deux personnes vivent en proximité l'une avec l'autre et dans cette intimité, ils apprennent à connaître l'autre tel qu'il est réellement. En ce qui concerne les relations plus superficielles, que ce soit au travail ou dans le quartier, les gens montrent souvent le meilleur d'eux-mêmes. Ils présentent une façade. Mais au sein du mariage, cette façade tombera tôt ou tard. Au sein du mariage, nous sommes rapidement confrontés aux défauts de notre conjoint et nous montrons plus facilement le pire de nous-mêmes. Ainsi, dans le mariage, nombreuses sont les occasions où les malentendus, les blessures et les offenses sont vécues, allant de petits méfaits assez banals aux grandes fautes telles que l'adultère, l'infidélité et la maltraitance en tout genre. De même, au sein d'un mariage, des tensions et des conflits peuvent surgir sur toutes sortes de sujets. Il peut y avoir des désaccords et des disputes. Ce sont des réalités malheureuses, même quand chacun aspire à faire des progrès vers la sainteté et cherche à fonder sa vie sur Jésus-Christ. Et donc la question se pose, que faire lorsqu'il y a blessure et offense?
Et selon vous, la réponse, c'est d'apprendre à pardonner l'autre.
Tout à fait. Puisque Jésus nous a pardonnés au prix de sa vie, il est tout à fait normal que nous pratiquions le pardon envers notre mari ou notre femme, là où il y a eu faute, offense et blessure.
Et comment définir le pardon?
Le pardon, c'est ne plus tenir compte d'une faute qu'une personne a commise. Le pardon, c'est renoncer à la vengeance. Au sein d'un mariage, s'il n'y a pas de pardon, les blessures accumulées peuvent engendrer de l'amertume, puis des actes ou des attitudes qui expriment un sentiment de vengeance. Les relations dans le couple peuvent alors se détériorer et conduire à la rupture.
Merci Antoine. Nous comprenons ainsi toute l'importance et l'enjeu du pardon. Mais faut-il toujours pardonner de façon inconditionnelle?
Voilà une question importante, et nous n'avons pas le temps de l'aborder en profondeur. En ce qui concerne les fautes et les défauts de personnalité peu graves, il peut suffire de tout simplement les pardonner dans notre cœur. Toutefois, pour les offenses plus graves et les blessures plus profondes, il est important aussi de rechercher la repentance. Lorsqu'un mariage est troublé par des comportements ou des conduites fortement nuisibles, il est souhaitable de pouvoir en parler à sa femme ou à son mari, de lui expliquer en quoi cela nous fait du mal. Il faut essayer de remettre l'autre en question et de lui demander de changer. Il est préférable que le pardon puisse être accordé dans un contexte où celui qui a commis le mal le reconnaît et s'engage à changer. Ces conversations ne sont jamais faciles et peuvent être facilitées par la présence d'un chrétien mûr ou d'un conseiller conjugal. Le but de ces démarches est de reconstruire le mariage sur de bonnes bases. Un mariage a toutes les chances de réussir et de durer si le mari et la femme ont tous deux cette attitude d'humilité. C'est en effet l'humilité qui permet de pardonner et aussi de se remettre en question, de se repentir et de changer afin de ne plus être une source de peine pour l'autre.
Merci Antoine. Nous devons nous arrêter là, mais j'ai l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet. Que Jésus nous aide tous à vivre le pardon dans notre vie de couple.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre ces deux séries basées sur Éphésiens chapitre 5. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.